horizon or watch it.
La dispute. Ce soir, le cinéma.
Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore. Nous sommes ce soir comme tous les vendredis en direct du bar de la Maison de la Radio, le Bel Air, où la prise de son est assurée par Julie Garraud, Cédric Chatelus et Stéphane Desmond, assistés par Inès De Bruyne au studio 158. À la réalisation, c'est toujours Daniel Finot. Je salue ce soir autour de moi Muriel Joudet, Charlotte Garçon et Julien Gester, avec un autre programme, Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo, Le grand jeu d'Aaron Sorkin et Si tu voyais son cœur de Joanne Chemla. Boris Pinault est également à mes côtés pour me lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter. Et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir à gagner des invitations pour l'exposition Surveillance Index Performing Books jusqu'au 27 janvier au Bal à Paris. Et tandis que Julien Gester et Muriel Joudet se font livrer des cocktails, nous commençons avec le nouveau film de Hong Sang-soo. On en parle presque deux fois l'an ici dans La Dispute avec toujours, je crois, le même enthousiasme. On va voir si c'est encore le cas ce soir. Le film s'appelle « Seul sur la plage la nuit ». On y retrouve l'actrice Kim Min-hee qui jouait déjà dans son film précédent, Le jour d'après. Elle interprète ici une jeune femme en errance, d'abord à Hambourg, puis dans une petite ville coréenne, celle de son enfance, en proie au doute et à l'absence d'un homme marié qui ne vient jamais.
뭐구려? 아, 이게 누구야?
그 사람.
사랑은 해? 왜 헤어진 거야? 유부남이라며. 근데 어떻게 온다고 그러는 거야? 언제 온대?
아주 돌아온 거야? 내 소문 다 들었어? 너 그 유부남하고 바람 피워서 뭐 잠수 타다가 외국 나왔어 뭐 그런 거 뭐 다 들었어. 근데 진짜야?
잘 지냈어? 어떻게 됐어? 아니 잘 지냈냐고.
야, 거기 남자 어떠니? 좋지 않았니? 여기 남자들보다?
몸은 좋죠. 거기도 크고.
너 왜 모른 척하니?
너 몇 살이 들어와?
내가 무서워? 왜 사람을 피해?
아, 너 몇 살이더라 진짜?
응, 아주 돌아온 거야?
너 배 고프니? 뭐 먹을까?
근데 그 사람 영화 안 만든대? 안 만들어? 소식이 없어.
그냥 입 좀 조용히 하세요! 다 자격 없어요! 다 비겁하고 다 가짜에 만족하고 살고 다 추한 짓 하면서 그게 좋다고 그러고 살고 있어. 다 사랑받을 자격 없어요!
아니, 응? 누가 너를 사랑할까?
Julien Gester, vous parlez couramment le coréen maintenant, j'imagine.
J'ai essayé en tout cas d'apprendre. C'est pas si difficile finalement. Mais je me suis malgré tout heurté à quelques blocages. Mais donc, on n'a pas besoin de parler le coréen pour apprécier chaque nouveau film de Hong Sang-soo qui se présente à nous. Il faut mesurer, vous. Alors, je me permets une toute petite rectification. Ce n'est pas le film qui suit Le jour d'après, mais c'est celui qui le précède.
Dans le sens de la sortie française.
Voilà,
sorties françaises,
absolument. Mais c'est un petit sens, au sens où Hong Sang-soo a multiplié les collaborations ces dernières années avec l'actrice que vous mentionniez, Kim Min-hee, qui a changé quelque chose à l'intérieur de son cinéma, mais aussi, on peut le penser, dans sa vie. Il faut faire un sort un petit peu à cette question-là, qui a fait beaucoup de bruit en Corée du Sud, où l'adultère désigné entre le cinéaste et son actrice, cinéaste marié, a fait énormément a causé un scandale assez considérable, et dont il est difficile d'ailleurs de prendre la mesure, je pense, vu de France. il est possible que ça a été peut-être plus tonitruant que les aventures à scooter de François Hollande, avec des épisodes successifs de mère de l'une des protagonistes qui a imploré l'autre. Mais tout ça n'a pas une importance considérable, mais malgré tout, on peut pas tout à fait faire l'économie de cette chose-là pour réinscrire ce film-là dans une chronologie. Dans le cinéma de Hong Sang-soo, qui commence à tourner avec elle dans un film que je trouvais magnifique, qui est peut-être un de ses meilleurs, qui s'appelait Un jour avec, un jour sans, et qui a poursuivi cette collaboration jusqu'à à ce jour, le jour d'après, qu'on avait découvert à Cannes, qui était sa sortie l'été dernier, et entre les deux, entre lesquels il y avait ce film-là qui se fait indirectement l'écho de ce que traversait le cinéaste et son actrice dans leur vie à ce moment-là, puisqu'il est question d'une jeune femme qui tardivement dans le film se révèle être une actrice et qui se révèle être une actrice dévastée par une histoire d'amour et vraisemblablement un chagrin d'amour noué avec un réalisateur et qui au départ du film, si on relie en tout cas les deux parties du film dans une logique de continuité, mais le film est plus complexe et plus ouvert que ça en termes de lecture de son cheminement narratif, en tout cas au départ du film, cette femme se trouve en Allemagne, à Hambourg plus précisément, et on devine assez rapidement, elle rend visite à une amie, mais on devine qu'elle allait chercher à fuir le tumulte de ce qui se jouait dans sa vie en Corée, et fuir aussi cette histoire, cet homme, même s'il est question que peut-être cet homme à un moment donné lui rende visite. Et le film, je l'évoquais rapidement, se divise en deux parties qui ne sont pas tout à fait égales l'une et l'autre. La première dure environ une demi-heure, l'autre peut-être plus près d'une heure, 1h10. Et on peut, comme souvent chez Hong Sang-soo, pas tout à fait, ces deux parties ne s'emboîtent pas parfaitement. Quand bien même elles représenteraient, elles seraient frayées par le même personnage, ou en tout cas une actrice qui porterait le même nom. Qui joue un personnage qui porterait le même nom dans les deux parties. On peut dire, enfin voilà, on connaît le casse-tête chinois. Hong Sang-soo a en quelque sorte inventé une forme de casse-tête coréen très sophistiqué, assez fascinant, où justement on peut recomposer les parties de ces films qui jamais ne s'emboîtent parfaitement. Il y a toujours, et il en a parlé à quelques occasions dans des entretiens, il explique que Il y a des choses qui se recoupent dans les différentes pièces qui composent ces films, et puis d'autres qui s'emboîtent moins bien, qui ne correspondent pas, et qu'entre les deux, il y a du jeu. Et dans ce jeu se joue une infinité de mondes possibles. Et c'est vraiment ce qui se joue à nouveau dans ce film que je trouve non seulement très beau, je pense un des plus beaux que Hong Sang-soo a réalisé parmi les nombreux qu'on a vus, puisqu'on en a découvert 4 entre les festivals et les sorties en France au cours des 18 derniers mois, mais aussi surtout peut-être un des plus directement émouvants de par la trajectoire de son personnage et la composition de ce personnage, à la fois par le cinéaste et la manière dont le film son actrice, mais par aussi son actrice que je trouve vraiment magnifique dans le film.
Oui, parce qu'il en ressort un en France dans quelques semaines avec la même actrice Kim Min-hee. Muriel Joudet, un premier regard sur ce film de Hong Sang-soo.
Alors, mon sentiment est un peu plus mitigé, alors que je suis une très grande fan, comme Julien et comme je pense tout le monde autour de cette table, de Hong Sang-soo, même si le plaisir est toujours renouvelé de retrouver ce cinéaste, de retrouver cette chaleur, cette intimité qu'il arrive à poser dès les premiers plans. Il y a une mise en scène, là c'est vraiment du Hong Sang-soo à l'os. Et c'est une sorte de grande respiration comme ça dans l'année, deux fois dans l'année. Mais il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une sorte de lassitude personnelle pour le cinéma d'Hong Sang-soo depuis qu'il fait des films avec Kim Min-hee, une sorte de, que je traduirais par une sorte de repli de maniérisme, c'est-à-dire que je vois Hong Sang-soo faire du Hong Sang-soo, se replier sur son cinéma. Ne pas se renouveler suffisamment, et ce repli est aussi un repli sur son actrice. Je le vois complètement fasciné par elle, si bien que tous les autres personnages, à mon sens, disparaissent. On lui pardonne tout, elle est magnifique, elle est fascinante, elle est géniale, c'est sûrement le cas, et puis on est de fait fasciné par elle. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de narcissisme conjugal qui se met en place depuis qu'elle est arrivée dans son système. Et ça manque de détours. C'est-à-dire que, comme le rappelait Julien, on ne peut pas parler de ces derniers films sans évoquer ce scandale en Corée. Et le fait que Hong Sang-soo, dans ce film, à plusieurs reprises, règle ses comptes, se justifie un peu, fasse passer comme ça dans les dialogues des choses qui ont à voir avec sa propre vie, à mon sens, ça manque un peu de détour. C'est très frontal, alors qu'avant, il avait plutôt l'habitude de contourner son autobiographie. Donc voilà, le sentiment d'une renaissance pour lui qui, personnellement, m'intéresse moins que ses films précédents.
Pour autant, la question amoureuse et la question adultérine, elle revient depuis déjà des années et des années dans son cinéma. Là, c'est vraiment différent. Vous pensez que quand on n'a pas cette histoire en tête, cette anecdote, après tout, en tête, on le voit dans le film ?
Non, sûrement pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui tient au fait de fréquenter, d'avoir vu tous ses films, de le fréquenter depuis 18 ou 19 films. Enfin, c'est pour ça que je mets ça aussi sur le compte, peut-être d'une lassitude très personnelle. Et si c'était le premier film de Hong Sang-soo que je voyais, je trouverais certainement ça magnifique. Voilà.
Charlotte Garçon, j'imagine que c'est pas le premier que vous voyez non plus.
Ce n'est pas le premier, mais je ne suis pas spécialiste. J'ai eu aussi l'impression que l'aimantation vraiment très très physique, l'envoûtement que provoque à l'évidence l'actrice pour le cinéaste et à la fois la beauté qui se diffuse vraiment dans les plans et dans certains cadrages. Parfois, son corps crée une sorte de paysage. C'est vraiment assez extraordinaire. Mais elle est effectivement, pour moi aussi, la limite de ce qu'apporte Hong Sang-soo dans le film. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de culpabilité ? Je ne sais pas. Mais il est vrai qu'on est du côté de cette femme, qu'elle soit à Hambourg ou qu'elle soit dans cette ville côtière de Corée où elle rencontre des gens que finalement elle n'a pas spécialement envie de revoir. Hein. C'est quand on revient dans des villes de son enfance, parfois on retrouve des vieilles connaissances, pas forcément si amicales que ça. Il me semble que le film questionne quand même quelque chose d'assez intéressant et qu'on voit assez peu dans les films amoureux, qui est peut-être ce que vit l'autre quand on n'est plus avec lui. Et cette situation d'attente, qui n'en est pas une, est assez inédite au cinéma. C'est-à-dire qu'on est dans une indétermination. D'habitude, dans les films, alors le mélodrame, bon, voilà, il y a une attente et ça crée une très forte tension. Et le scénario se cristallise autour de cette attente. Est-ce que l'autre viendra, quittera sa vie précédente, etc. Et là, il arrive, et ça c'est quand même sa virtuosité scénaristique est bien là, il arrive à complètement retourner et à nous détourner de cette tension possible et à l'installer elle dans l'attente. C'est-à-dire que ce personnage se pose la question de où vais-je vivre ? Est-ce que je vais m'exiler en Europe, loin de ces mauvaises rumeurs, ou est-ce que je vais revenir reprendre ma carrière d'actrice en Corée ? Et on a l'impression que le film répond l'installation, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que ça. Tu vas t'installer, mais ce sera quelque chose de quasiment existentiel qui n'est pas lié à un lieu. Et ça, quand même, c'est assez fort d'arriver à le suggérer sans être dans un discours autour de ça. Donc, bon, je suis assez admirative pour ça. Mais j'ai aussi souffert de ce côté... Enfin, de jouer aussi beaucoup du charme de l'actrice et du coup de pas avoir de distance par rapport à ça.
Boris Pinault, vous nous lisez peut-être le commentaire d'une auditrice qui n'est pas totalement convaincue non plus, on va dire, par le cinéma d'Hong Sang-soo. On ne sait pas si elle est très familière de cinéma ou pas.
Oui, quelques mots de Vera Chen sur Facebook, en effet. Violente lenteur du film, climat faussement ou vraiment bancal, approximation des mouvements de caméra, ivresse du rien, exaspération d'un dialogue qui commente l'action, puis Hong Sang-soo fétichise ses scènes de beuverie immense et tisse un drôle de rapport aussi malgré du vrai, à la fiction, à la création et au faux-semblant du réel.
Julien Gester, pourtant les scènes de beuverie, elles sont...
Mais en plus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que déjà, elles sont souvent elles sont formidables. Je pense que c'est un des plus grands acteurs du monde qui travaille avec très peu de choses et qui produit des effets de groupe. On a des chœurs qui existent ensemble d'acteurs, je trouve, à un niveau d'intensité, de jeu, de précision qui est rarement visible ailleurs, avec en plus sur des plans séquences assez longs, etc. Et en plus, je trouve qu'on aurait tort de taxer de fétichiser cet effet, cette scène-là, qui est un peu évidemment un des clichés de son cinéma, qui a un effet presque de signature, même s'il lui dit qu'en gros, il fait avec sa vie, et que dans sa vie, il boit. Enfin, voilà, donc on ne fait pas des films avec du cinéma. Mais Dans, précisément dans ce film, je trouve qu'il ne filme pas du tout tout à fait ces séquences de beuverie de la même manière. Ça tient à une petite manière de dévier l'axe de la caméra lors des deux occurrences de ce motif-là. Et je trouve que plus que jamais, justement, dans ce film-là, on a l'impression que le spectateur est convié à table, qu'il a sa place autour de la table. On n'est pas du tout dans la frontalité très à plat, justement, qui est souvent celle de duo ou de quatuor qui boivent ensemble en déblatérant et en finissant souvent en cris, en larmes, etc. Mais au contraire, il y a une inclusion dans le cercle. Et je trouve que justement, le film est plus ouvert que vous ne l'avez décrit, Muriel Jodet et Charlotte Garçon, puisqu'il y a au moins deux figures très fortes, je trouve, qui émergent dans le film à ses extrémités. Il y a, en dehors du personnage joué par Kim In-hee, que je trouve déjà en soi, le film pourrait tenir sur lui, tant il est riche et bouleversant dans la manière à la fois de se confronter à une condition d'étrangère pour presque noyer sa manière d'être étrangère à elle-même dans son état de chagrin et de désastre amoureux dans la première partie, et qu'ensuite elle rentre au pays natal pour y être presque étrangère, plus étrangère encore qu'elle ne l'était quand elle était en Allemagne. Mais indépendamment de ce personnage, il y a la figure de l'ami qu'elle va voir dans la première partie qui est à Hambourg, dont on comprend qu'elle a également un historique amoureux compliqué. Et je trouve que ça tient vraiment à l'actrice. Ce personnage a peu de scènes et peu de mots pour exister, mais que le personnage est très fort, il existe pleinement, il impose un contre-champ totalement, enfin, qui dépasse vraiment le champ d'un personnage qui serait là pour donner la réplique au personnage de Kim In-hee et qui acquiert une vraie densité humaine. Et puis à l'autre extrémité, il y a un personnage de réalisateur plein de remords et qui est confronté par la figure de l'actrice, et dont on peut penser que c'est une sorte de double ou pas de Hong Sang-soo dans le film, et qu'il n'est là que pour cracher du regret, des larmes et du voilà, mais qui arrive, alors qu'au fond, si on lisait les mots, je pense qu'il dit sur papier, ce serait une figure tout à fait caricaturale. Le personnage est là, il existe, et je trouve très très émouvant.
Muriel Jodet, vous allez me dire peut-être que je me trompe, j'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que peut-être le choix d'un personnage en particulier, ce qui n'était pas le cas dans ses films précédents, s'articule avec le fait qu'il choisit qu'il se range de plus en plus dans une veine assez sombre. Moi, son dernier film, ça m'avait assez frappé, le fait qu'il était assez unilatéralement triste par rapport à ses autres films qui sont toujours un petit peu sur une limite entre le comique et le tragique. Vous parliez de larmes, des larmes, on en voit depuis assez peu de temps, j'ai l'impression, dans les films de Hong Sang-soo.
Mais c'est vrai qu'il est passé d'une sorte de légèreté, presque de bande dessinée, à quelque chose de beaucoup plus désespéré, même s'il y avait des occurrences de désespoir dans ces films. Là, on sent que plus ça avance, plus il se rapproche des films, plus son autobiographie est importante. En même temps, bon, je ne vais pas parler du prochain film, La caméra de Claire, mais là, c'est une veine beaucoup plus légère qui m'a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire... Il y a le risque là pour Hong Sang-soo d'une sorte de fétichisation de son propre cinéma. Et bon, je vais pas en dire plus, hein, ce sera l'occasion de nos disputes, mais en tout cas, voilà. C'était, là, il n'y a pas désespoir dans le prochain, et c'est la suite logique des écueils que je trouve dans celui-ci.
Charlotte Garçon, un dernier mot peut-être sur le film de Hong Sang-soo.
Non, mais il reste quand même quelque chose de très très singulier, même si on trouve que celui-ci n'est pas le plus réussi, dans le sens où il est moins ludique aussi, il a moins cette légèreté dont vous parliez et qui vient du jeu avec la forme. Mais ce qui me semble quand même très singulier et qu'on aimerait voir par exemple en Europe, c'est justement cette capacité à rendre l'étrangeté à soi, l'impression que la psychologie est vraiment atomisé et projeté à l'extérieur. Enfin, il y a presque quelque chose de phénoménologique dans cette façon de rendre le fait que, en fait, quand on ressent des choses, on n'est pas toute la journée à mouliner, mais qu'on se perd dans ce qu'on regarde, dans des paysages. Enfin, on ne pense pas, on s'écoule. Et ça, bon, je pense que c'est quelque chose dont on fait tous l'expérience, mais c'est très difficile à rendre cinématographiquement. Et je trouve que c'est magnifiquement rendu ici.
Voilà donc en ce qui concerne ce film de Hong Sang-soo, Seul sur la plage la nuit, à suivre dans la dispute Le Grand Jeu et Si tu voyais son cœur.
France Culture.
La dispute. Get the right.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute en direct du Bel Air à la Maison de la Radio, ce soir consacré au cinéma avec un film qui est sorti il y a déjà une dizaine de jours, Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin. Aaron Sorkin qu'on connaissait jusque-là surtout comme scénariste avec des séries à la Maison Blanche, The Newsroom, et des films comme The Social Network. Le Grand Jeu est donc son premier film en tant que réalisateur. L'histoire adaptée de faits réels de Molly Bloom, ça ne s'invente pas, ancienne championne de ski acrobatique qui, à la faveur d'une année de césure dans des études qui s'annoncent brillantes, devient organisatrice de sessions de poker pour des célébrités et des hommes d'affaires.
I'm Molly Bloom. This is a true story. I decided to take a year off before law school, so I found a job as an office assistant.
Hey Molly, my weekly poker game has moved to the Cobra Lounge. You'll help run it. Hey Molly.
Yeah.
Don't fucking tell anybody.
See you next week.
This is for you.
Thank you so much.
I'm gonna stop paying you as my assistant.
You're firing?
I'm not firing you. I'm just gonna stop paying you. You get paid once a week from the game. It doesn't seem fair.
You're gonna stop paying me because I'm making too much money doing my second job, and if I say no, I'll lose both jobs because it doesn't seem fair?
You don't have bargaining power here.
You are unimportant.
I wasn't gonna wait before I put a plan in place. I'll be hosting a game in this suite every Tuesday night.
First buy-in, $250,000.
That's gonna make noise.
Let's play.
In a room with movie stars, directors, and business titans. They were going all in, all the time. I was the biggest game runner in the world.
You've got $2.8 million on the street right now.
You're gonna get blown up.
Do you understand that you are charged with operating an illegal gambling business?
You're not taking a percentage of the pot?
No.
Well, keep it that way because you don't want to break the law when you're breaking the law.
Am I breaking the law?
Not really.
We're able to find out for sure, aren't we? Laws are written down.
Have you seen the other names in your indictment? Come on, Marty, just how deep into the Russian mob were you?
Why are you in this alone? Where are the people you're protecting by not telling the whole story?
Cette bande-annonce est interminable, donc c'est un film que j'attendais, moi, beaucoup personnellement. L'association entre Aaron Sorkin et Jessica Chastain, dont on sait qu'elle peut avoir un débit extrêmement rapide, on se dit ça peut fonctionner. Muriel Joudet, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier film d'Aaron Sorkin?
Alors moi, je ne l'attendais pas forcément, parce que j'ai vu aucune série écrite par Aaron Sorkin.
Ah, ça, c'est un tort.
Mais j'ai une passion absolue pour The Social Network, que j'adore, et qui, pour moi, est un exemple de scénario... où j'ai compris ce que c'était Aaron Sorkin, c'est-à-dire c'est de la vitesse. Mmh. Et David Fincher arrive à traduire par la mise en scène cette vitesse. Là, pour le coup, donc, bon, je connais pas trop Aaron Sorkin, mais je vois quand même ce qu'on considère comme un grand scénariste accoucher d'une petite chose, d'une très petite chose, et c'est d'autant plus désagréable qu'il a la conscience de faire un grand film. Et ça, c'est, pour moi, c'est très gênant. Et on pouvait voir dans le métro, sur l'affiche... marqué que c'était le loup de Wall Street au féminin, ce qui joue en la défaveur du film, puisque c'est une comparaison qui vraiment écrase plus qu'elle ne sert le film. On comprend le parallèle, c'est-à-dire que Scorsese, c'est de la vitesse au montage, c'est de la vitesse de la mise en scène, c'est de la vitesse de mouvement de caméra.
De la voix off aussi. Parce
voilà,
que
la, voilà coup, on y pense la voix off, exactement. Donc voilà, une sorte de flux d'images comme ça, perpétuel. Et puis Sorkin, ce serait voilà, la vitesse des dialogues. Hein, et donc sa marque de fabrique, c'est les gens qui parlent en marchant. Donc voilà. Et l'idée serait donc de traduire cette vitesse verbale en vitesse de mise en scène. Sauf qu'on se rend compte très vite que Aaron Sorkin, qu'un grand scénariste n'est pas forcément un grand metteur en scène. Pour moi, c'est un cas typique, en tout cas ce film, de non-possibilité de conversion de son génie, puisque le film est totalement, en tout cas, à mon sens, totalement dépourvu de mouvement. Il s'agit dans tous les sens, tant de nous faire croire qu'il y a de la puissance, hein, ça serait vraiment le mot, puissance, et ça ne marche pas, ça retombe toujours. Et j'en veux aussi, ce qui me gêne aussi, c'est le personnage de Jessica Chastain qui n'arrive pas à mythologiser.
Qui est de tous les plans,
qui a, je pense, 300 robes dans le film, et ça, c'est assez fascinant
tout
à regarder.
Toutes aussi moches les unes que les autres, il faut le dire.
Oui, mais c'est assez... des robes américaines, quoi. Mm. Et donc, il n'arrive pas à la mythologiser. Donc ça serait quelque chose qu'il devrait faire, et même à nous intéresser à ce personnage, qui est quand même un personnage de Poffy. Donc, on devrait s'intéresser à elle, et on n'y arrive pas. Moi, j'avais vraiment du mal à trouver l'intérêt dans cette... dans son itinéraire, ou en tout cas, je me disais, c'est le mauvais cinéaste pour nous intéresser à cette trajectoire, surtout qu'on nous explique que derrière ce portrait de Poffy, tout s'explique par le fait qu'elle n'aimerait pas, que son père ne l'aimerait pas. Donc, cette réduction psychologique, psychanalytique, est pour moi une sorte de faute scénaristique, au sens où le parcours atypique de cette jeune femme se retrouve écrasé, ramené à une seule cause, et ce qui est pour moi un contresens absolu par rapport à ce que j'estime être une sorte de projet plutôt féministe. Voilà, donc... Pour moi, c'est un raté total.
Oui, il faut dire que Aaron Sorkin revendique vraiment le fait d'aimer profondément ce personnage, puisqu'il connaît la vraie Molly Bloom et qu'il la connaît depuis longtemps et qu'il a vraiment fait ce film presque pour elle. Charlotte Garçon.
Mais c'est justement la racine du problème. Effectivement, d'abord, ses intentions féministes qui sont aussi soutenues par l'engagement total de Jessica Chastain au nom du fait qu'enfin une femme entre dans un monde masculin qui est celui des jeux d'argent à la limite de la légalité, justement. On l'entendait dans la bande-annonce. L'un des enjeux du film, c'est est-ce qu'elle sera passible de la justice ou non ? Est-ce qu'elle va pouvoir négocier devant la justice de ne pas être emprisonnée ? Mais à la racine, effectivement, moi, je ne comprends absolument pas la fascination que Sorkin peut avoir pour ce personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage, il me semble, faussement picaresque. En fait, c'est une jeune femme qui a été élevée pour gagner. Excuse-moi. Elle est presque... on a l'impression qu'elle a déjà eu des hormones, si vous voulez, injectées en elle dans son enfance, puisqu'elle a été poussée en tant que championne de ski. Bon, il y a eu un accident, mais voilà. Et donc, on a l'impression qu'il est fasciné, en fait, tout simplement par l'esprit de compétition. Et aussi la capacité à faire de l'argent. Bon, alors, c'est quelque chose de très... c'est une banalité. C'est ce qui donne lieu à tous ces livres, tous ces TED Talks, pour expliquer comment, vous aussi, vous pouvez... comme Monsieur Tout-le-Monde qui est devenu millionnaire, vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent. Le problème, c'est que le film n'a, me semble-t-il, aucun recul et nous vend une sorte de succès pseudo-picaresque, d'ascension, voilà, qui ne nous intéresse pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'argent en jouant sur quelques fantasmes masculins et sur tout simplement une addiction au jeu, qui est assez banale, je vois pas en quoi elle a une qualité d'héroïne suffisante. Alors, la partie d'écriture de Sorkin, dialogue à la mitraillette, elle s'épanouit un petit peu plus dans la dernière partie du film, un peu en huis clos, puisqu'il y a un personnage d'avocat qui va essayer de négocier âprement avec elle un plaidé coupable. Alors qu'elle se sent absolument non coupable là-dedans. Là, il me semble qu'il se passe quelque chose dans leur échange qui n'est peut-être pas nouveau dans l'écriture d'Aaron Sorkin, mais où on retrouve un peu ces petits. Mais manque du loup de Wall Street, manque justement le côté irrécupérable, machiste, vulgaire, lubris absolu qu'il y avait. Je vous souvenez que le personnage joué par Leonardo DiCaprio chez Scorsese rampe littéralement hors de sa voiture parce qu'il a fait une overdose sur des vieilles drogues, des vieilles pilules de drogue. Voilà. Et là, c'est les moments les plus intéressants. C'est évidemment pas les moments où il réussit à gagner beaucoup de sous, etc.
Donc c'est drôle, étonnant, aussi, surtout, le loup de Wall Street. Là,
oui,
il y a vraiment...
Ça. Mais c'est drôle par l'excès. Ça devient burlesque. Là, on est les robes sont... Vous dites un panel de robes moches, mais justement, on est en même temps face à une actrice qui ne veut pas aller dans cette vulgarité, dans cet excès, dans ce burlesque. Je trouve ça dommage.
Julien Gester.
Je rejoins mes camarades sur ce qui vient d'être dit, notamment ce que disait Jeudet sur le caractère totalement amorphe du film. C'est le pire service du monde de le comparer au film de Scorsese, duquel on peut penser ce qu'on veut, mais Scorsese est une sorte d'hyper metteur en scène jusqu'à l'excès. Et là, on a affaire à quelqu'un qui n'est non seulement pas un bon metteur en scène, mais qui n'est presque pas un metteur en scène, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment d'un film qui ne serait pas filmé, qui serait illustré par des images tout du long. Mais Sorkin a trouvé tout au long de sa carrière, que ce soit dans des séries qu'il a écrites ou dans des films, notamment avec Fincher, des gens qui ont su mettre en mouvement cette parole qui était caractérisée par sa vitesse, mais aussi par sa densité, par tout ce qu'elle charriait dans un temps très court. Et ça ne tenait pas qu'une condensation par le débit de parole, mais par aussi une ambition à caser un maximum d'informations avec une certaine exigence dans la tenue des dialogues en question. Dans la capacité, une certaine confiance de Sorkin dans sa capacité à concasser tout ça dans une langue aussi qui soit très orale, très verbale, et malgré tout qui sonne très naturel, malgré la charge, le lest d'informations, etc. Or ici, d'une part, je trouve que cette densité, on la retrouve beaucoup moins, à part quelques références littéraires saupoudrées ici et là, en guise d'effet de signature. Le vertige qu'on peut ressentir face à une figure comme celle de Zuckerberg dans The Social Network, ou même le personnage que joue DiCaprio, qui est lui aussi une espèce de type un peu de winner, mais un peu médiocre, beauf, pas très intéressant. Mais là, pour le coup, ça tient justement à l'intelligence du regard de Scorsese sur lui, que de nous le rendre présenter une forme d'abîme dans ce type qui n'est au fond pas très intéressant. Là ici, si on n'a pas de fascination pour le train de vie qu'obtient le personnage de Jessica Chastain, voilà, et qu'on n'a pas exactement les mêmes problèmes avec un père qui ressemblerait à Kevin Costner, j'ai peur qu'on ait du mal à trouver une forme d'enjeu dans la trajectoire de ce personnage et à ressentir avec une quelconque forme de vertige ou de trouble face à ça. On a le sentiment globalement d'un scénario qui est sur papier, qui aurait été filmé tel quel, avec des images plaquées, piochées presque dans des banques de données d'images pour l'illustrer tout du long, et puis on aurait incrusté une actrice au milieu qui s'agite à essayer de faire exister ce personnage, ce qu'elle fait plutôt bien, mais elle fait avec ce qu'on lui donne, c'est-à-dire pas grand-chose.
Oui, puis surtout, elle fait toujours ça. Enfin, moi, j'ai vu un film l'année dernière que vous avez peut-être vu qui s'appelait Miss Sloane.
Je ne sais
plus du nom du réalisateur, qui était presque le même film. J'ai vraiment l'impression d'avoir revu Jessica Chastain dans une sorte d'emploi qu'elle a maintenant, qui est cette femme forte, qui parle vite. Oui, mais alors du coup, même cet intérêt-là, moi, j'ai plutôt une attirance pour cette actrice que je trouve plutôt bonne. On le perd, je trouve, à la répétition. Et moi, je serais même encore plus dure que vous sur le scénario, parce que je trouve que non seulement la mise en scène est inexistante, mais que si on enlève ça, je suis même pas sûre que le scénario en lui-même, par rapport à The Social Network, pour filer la comparaison, soit vraiment un bon scénario. On parlait aussi de Super Bicon il n'y a pas longtemps, en montrant que c'était un bon scénario avec une mauvaise mise en scène, un film de George Clooney. Là, je suis même pas sûre qu'on puisse dire ça du grand jeu Muriel.
Non, je suis tout à fait d'accord. Puis, comme je rejoins vraiment ce que disait Charlotte sur j'appellerais ça le puritanisme du film, et qui est un puritanisme qu'il faut systémique en fait d'Hollywood. Et je pense au rôle de Michelle Williams dans Tout l'argent du monde qu'on avait évoqué de Ridley Scott. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on nous fait des films sur des portraits de femmes censés être resplendissants, éblouissants, et on n'a pas grand-chose au final. Et l'actrice, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Molly Bloom se gargarise de ne pas coucher avec ses clients, alors que chez Scorsese, elle serait très contente, elle coucherait avec tous ses clients et elle s'en féliciterait et ce serait pas un problème. Et pour moi, c'est l'image même du Hollywood actuel, c'est ça. On se gargarise de coucher avec personne et juste de s'habiller en, voilà, comme une prostituée, comme elle le dit elle-même, mais de ne pas coucher. Pour moi, c'est ça, c'est l'image même du Hollywood actuel.
Pour autant, peut-être on peut rattraper entre guillemets les seconds rôles qui sont à peine construits, mais je trouve un peu plus convaincants finalement que les rôles principaux, notamment toute cette galerie de personnages qu'on voit défiler et qui s'assoient autour de la table de jeu de Jessica Chastain. Je pense à Michael Cera et à d'autres acteurs qu'on voit peu ou dans des séries justement télévisées, qui sont un peu plus convaincants parce qu'ils sont justement moins étalés directement. Julien Gestel.
Malheureusement, il y a tellement peu de points de vue sur le poker, notamment, qui est un,
oui,
qui
c'est
est
dommage, un enjeu, c'est un de mise en scène en soi. Ouais.
Mais c'est le seul endroit d'ailleurs où il, je dirais pas qu'il invente une forme, mais il se sent obligé de sortir de l'illustration pure, parce qu'il est obligé de faire preuve de didactisme à l'endroit de spectateurs potentiels qui ne comprendraient pas forcément.
J'ai quand même rien compris, je tiens à préciser.
Donc je veux dire qu'en plus c'est raté. Mais c'est le seul endroit où il essaie quelque chose et c'est vraiment très plat, ça ne produit rien. Et je trouve que voilà, le poker n'est pas tellement filmé que du coup ces personnages en seront réduits à jouer des caricatures. Moi ce que je sauverais éventuellement, c'est Kevin Costner qui est vraiment, je trouve, bouleversant dans ses deux vraies apparitions au début et puis plus tard. Malgré, pour le coup, c'est peut-être la pire scène du film, le caractère totalement téléphoné, sa réapparition dans le film. Pour ceux qui le verront encore, on ne dira pas forcément dans quelles circonstances, mais c'est à la fois une sorte de parachutage absolu, et en plus les enjeux qui sont placés dans cette scène, en termes de déchiffrage psychologique, etc., tout ça relève tellement d'une forme d'auto-analyse de texte ultra grossière, que, et c'est assez merveilleux que cet acteur arrive encore à exister dans une scène pareille.
Charlotte Garçon, quelque chose à sauver quand même sur ce film, Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin?
Non, à sauver de ce film peut-être pas, mais en tout cas, moi j'aime assez, et on le voyait bien dans The Social Network, j'aime assez l'ambition un peu américaine, mais qui se fait par exemple dans certains romans en France aussi, de mettre beaucoup d'informations dans un film, et pour autant de ne pas renoncer au romanesque. Donc c'est une ambition qui est toujours, j'ai une certaine gourmandise pour ça. Bon, là ça rate complètement, parce que non seulement on ne comprend rien au poker, mais voilà, les choses sont dites en voix off, enfin c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, cette envie de combiner du romanesque et quelque chose de très très factuel, pour moi ça caractérise quand même tout un pan du cinéma américain, et je ne le jette pas avec l'eau du bain.
Bon, on va finir sur cette note positive. Voici donc pour Le Grand Jeu de Aaron Sorkin, sorti le 3 janvier dernier.
France Culture.
La dispute. Get the right.
Troisième et dernier sujet de cette dispute cinéma, le premier long métrage de Johan Chemla, Si tu voyais son cœur. Le cœur, c'est celui de Daniel, jeune gitan incarné par Gaël Garcia Bernal, qui, après la mort de son meilleur ami, se retrouve exclu de sa communauté et condamné à vivre dans un hôtel miteux où il rencontre Francine, jeune femme perdue, qui lui redonne une raison de vivre.
Faut que tu payes, tu dois 2 semaines.
Je veux travailler.
Ici, si ça paye pas, ça dégage.
Comment tu la trouves, la nouvelle acquisition?
Comment tu t'appelles?
Vous vous aimez?
Pas encore un grand amour, mais quelque chose qui commence.
Ouais, tu penses que je suis cinglé, hein?
Oui. Cette fille malade, l'État me l'a confiée personnellement. Je suis responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Tout!
Bande-annonce qui ne dit pas grand-chose, je trouve, de ce film, que j'ai trouvé personnellement assez étrange. Charlotte Garçon, pour commencer.
Alors, moi, j'ai eu une sensation étrange de bout en bout du film. Ça m'arrive, en fait, jamais. Je crois que c'était la première fois. Je me suis dit, mais en fait, j'aimerais avoir un autre morceau du scénario. C'est-à-dire, tout ce qui précède, mais pas l'histoire qui arrive aux protagonistes. Bon, et pourquoi? Ça, c'est sans doute dû aux deux acteurs. Nahuel. Nahuel Pérez Biscaillard, qu'on a vu récemment dans
120 battements par minute,
enfin, qui a été une révélation de ce film-là, et Gaël Garcia Bernal, et qui, bon, ils ont tous les deux des visages, des yeux absolument inoubliables, beaux, parfaits, etc. Et du coup, quelque chose se noue effectivement entre ces deux acteurs qui jouent le rôle d'amis, de meilleurs amis proches dans cette communauté gitane plus ou moins marseillaise, mais enfin faut vraiment pas trop regarder pour ni écouter pour en être convaincu. Et en fait, il y a quelque chose de punitif dans ce scénario, puisque très vite l'un des deux meurt. Et on se dit, par la grâce du flashback, on va avoir plus de scènes entre eux deux, et ça ne se produit jamais. Et donc j'ai eu l'impression, moi, du début à la fin, de voir un film dont l'acteur, laissé seul, à la dérive un petit peu, Gaël Garcia Bernal, fait ce qu'il peut pour naviguer comme ça dans un scénario qui devient de moins en moins en tension. et qui se met lui-même à errer un petit peu. Il faut dire qu'il vit dans une sorte d'hôtel borgne et qu'il n'arrive pas à quitter cette communauté une fois qu'il a perdu son ami. Et du coup, on a l'impression que le récit lui-même s'égare en même temps que le personnage. C'est assez étrange. Et par contre, que la mise en scène essaye de compenser ce côté désœuvré un petit peu et du personnage et du scénario avec quelques effets de style, j'allais dire presque de bonne volonté. Là pour le coup, on a l'impression que la réalisatrice a envie, a un appétit de mise en scène, mais que ça n'accroche pas, que les choses n'accrochent pas. Et du coup, moi, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien les voir, ces deux-là, mais dans une autre histoire.
Julien Gester, vous acquiescez?
Un petit peu, oui, parce que en tout cas, je sais pas si j'aimerais les voir dans une autre histoire, mais celle-ci, enfin, m'a pas complètement saisi. Enfin, il faut dire que c'est l'adaptation d'un roman de Guillermo Rosales, Mon Ange, écrivain cubain, mais qui s'est déroulé à Miami, donc qui était une histoire d'exil, qui était une histoire de déchéance aussi. D'une condition d'un individu qui était lié à cette condition d'exil. Et ici, donc, il faut vraiment, je pense, soit très bien, soit très mal connaître Marseille pour arriver à croire au fait que ça se déroule là-bas. Mais parce qu'il y a au fond, et même je pense, la communauté gitane qui est dépeinte est très, très, je trouve, mal circonscrite, caractérisée.
Mais est-ce que ça a une importance? Moi, j'avais l'impression que l'indétermination du lieu et des temps, d'ailleurs, parce que ça pourrait se passer absolument n'importe quand, était tout à fait voulu par.
Bah oui, je pense, oui, mais je vous rejoins, ça pourrait ne pas en avoir, mais s'il y avait là, justement, la force d'un trouble auquel elle travaille, je pense, par sa mise en scène, mais auquel qu'elle n'effleure jamais, soit quelque chose de... Si on accédait à autre chose, si vous voulez, par ce caractère désancré, indéterminé, voilà, mais là, on passe son temps à se demander, mais qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'il leur arrive tout ça? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser? Parce qu'au fond, cette figure centrale, on abandonne assez vite cette figure de camarade un peu... frère fictif, qu'on voit se marier au début dans des scènes qu'on peut trouver assez belles à l'aune du reste du film. Mais pour se centrer sur le personnage de Gael García Bernal, à l'écoute, j'ai pas vu la bande-annonce, mais à l'entendre et à reconnaître le film dedans, j'ai le sentiment que c'est très centré. Cette bande-annonce axe vraiment la chose sur une dimension d'amant maudit, seul contre le reste du monde. Mais le personnage, justement, dont il va tomber amoureux, joué par Marine Vague, va apparaître assez tard et très en pointillé. Au fond, ça devient un enjeu très secondaire du récit. Ce qui tient lieu de fil rouge et ce qui porte ce personnage, c'est cette damnation d'avoir été plus ou moins considéré comme responsable de la mort de son ami et donc de la peine qu'il va devoir, cette condamnation à vie en quelque sorte, à payer pour cette mort face au frère de la mariée, je crois, enfin de la veuve qui le rackette en fait littéralement. Et on passe tout le film à se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne se barre pas? Pourquoi est-ce qu'il se plie à ça? Pourquoi est-ce qu'il ne casse pas la gueule? Ce qui évidemment adviendra à un moment donné, mais si ça devenait trop tôt, il n'y aurait pas de film. Et au fond, ces questions ne sont pas très intéressantes, mais ça dit quelque chose de ce qui nous retient au personnage, c'est-à-dire pas grand-chose. Et malheureusement, la gang dans laquelle ce personnage se trouve, de mise en scène et surtout d'effets, je trouve énormément d'effets à la fois en termes de manière de filmer, de plastique du film, pleine de flair, de reflets, de focales longues, très soulignées, etc. Enfin, voilà, mais aussi en termes de caractérisation des personnages qui sont tous joués un peu parce que on appelle aux États-Unis des character actors, enfin, qui viennent avec des gueules, avec une manière de jouer qui, même quand ce sont de très bons acteurs, comme pour certains d'entre eux, ne montrent pas forcément à leur meilleur. Toute cette accumulation-là d'effets, je trouve, ne produit rien. Et le problème, c'est que comme tout ça repose sur un personnage absolument creux, dont on ne comprend rien ni des motivations, ni de la détermination du rôle à jouer dans cette tragédie-là, finalement, je trouve le film du coup très ennuyeux, enfin, dénué d'enjeux.
Muriel, comme je vous ai lu, je sais que vous n'allez pas défendre ce film Si tu voyais son cœur, de Johan Chemla.
Non, mais je comprends cette sensation d'étrangeté devant le film, de vide, mais qui n'est pas énervant. Alors que beaucoup de premiers films, de premiers longs-métrages nous énervent, là, il y a quelque chose de l'ordre du... Le film tombe dans beaucoup d'écueils, mais pas ceux du premier long métrage français, à part celui du mariage gitan. J'ai l'impression que j'ai vu beaucoup de mariages gitans dans le cinéma français depuis quelques années, et ça commence à m'énerver. Mais
attention,
vous êtes non, mais seul. Je veux dire, ce côté, ce goût du folklore, enfin, le goût du folklore, c'est voilà, c'est justement ce côté un peu on va aller voir l'altérité, quoi. Voilà, je précise. Donc, beaucoup de bonnes intentions, même si j'ai du mal à remonter aux intentions du film, qui sont très mal exécutées. Le casting est assez justement trouvé. On se dit qu'il va se passer quelque chose, que Marine Vatch va enfin jouer, parce qu'on sent qu'il y a une puissance, un magnétisme, et qu'il faut quand même l'aider, ce magnétisme, à arriver. Et là, précisément, elle apparaît et elle ne fait qu'apparaître. Elle n'existe pas, on ne lui donne pas de consistance. Et c'est un peu à l'image du film, c'est-à-dire que les choses existent d'emblée. Enfin, la cinéaste pense que les choses existent sans. Et qu'elle n'a pas à travailler pour les faire exister. Donc on est dans une sorte de tempête d'images, de situations. On est obligé d'y croire alors que rien n'a été installé. Et c'est assez. Encore une fois, c'est pas pénible, mais on se demande devant quoi on est. Et après, comme disait Julien, il y a beaucoup de personnages de gens paumés, voilà, d'apparitions comme ça, qui sont censés exister dès le premier regard et qui n'existent pas, puisqu'on on a vraiment le sentiment que tous les acteurs ne font que réciter leur réplique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce sentiment de scénario filmé, vraiment, au sens où personne n'arrivait à s'individualiser, parce que c'était juste un bout, chacun n'était qu'un bout de scénario, chacun n'était que des intentions mal exécutées. Donc voilà, l'errance du personnage devient l'errance du film, comme le disait Charlotte, et le film se prend les pieds dans toutes ses bonnes intentions, dans son envie de mystère, son envie de cinéma, son envie d'image et de personnage, et ça a peut-être un petit charme au bout, cet échec. Il y a presque un charme de l'échec dans ce film.
Moi, c'est peut-être la fragilité, justement, qui m'a pas déplu, mais je crois qu'on a des petits commentaires d'auditeurs qui sont relativement d'accord avec vous trois.
Oui, deux avis plutôt négatifs. En effet, Vera Shane, à nouveau, parle d'un film artificiel et désinspiré qui aurait pu s'inscrire dans la veine des frères Safdie, mais peine à établir son ambiance et son récit. Les acteurs rament comme de pauvres diables. Même Gaël Garcia Bernal en arrive à être déphasé. Et Patrick Braganti, toujours sur Facebook, écrit sur un premier film avec quelques trop rares moments de cinéma et beaucoup de prétentions et d'afféterie de mise en scène sur le sujet rebattu du deuil et de la résilience. Un objet qui se voudrait arty et chic, au final plutôt toc et convenu.
Moi, j'ai plutôt aimé ce film. Je vais être seule à le défendre. C'est justement le côté extrêmement filandreux du récit qui m'a plu, qui m'a tenue alerte. C'est-à-dire que pour le coup, je ne me suis pas du tout ennuyée, parce que vu que je ne savais absolument jamais où ça pouvait aller et quelle direction ça pouvait prendre, il y a la dimension un peu communautaire autour de la question gitane, il y a la dimension un peu polar, parce qu'on pourrait croire dans cet hôtel miteux qu'il va se passer quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, bon, rien de tout ça n'advient vraiment, mais j'avoue que j'ai été assez retenue, même si pas... Je pense pas à dupe des effets de mise en scène qui, pour le coup, me gênent beaucoup plus que le scénario. J'ai plutôt aimé ce film. J'ai plutôt envie de voir ce qu'elle va faire par la suite, Joanne Chemla. Charlotte Garçon.
Alors, moi, je vous rejoins sur le fait d'éviter quelque chose qui est très fréquent, pour le coup, dans le cinéma français. C'est-à-dire, on va se couler dans un genre.
Exactement.
Et combiner du genre avec une sorte de naturalisme à la française. Et là, c'est impossible pour plusieurs raisons. L'une des raisons étant... justement l'extranéité, le fait que Gaël Garcia Bernal est lui-même transporté, transplanté, et ça, c'est effectivement, je trouve, plutôt apporté au crédit du film. On ne se coule pas dans un certain genre désigné, on ne sait pas où on va, mais alors par contre ça se confond avec une désintégration du récit, parce que le personnage effectivement se trouve dans l'impossibilité de partir, du coup c'est comme si ne plus partir, c'était être condamné à une galerie de portraits. C'est quand même très très bizarre ce qui se passe dans cet hôtel, où on a l'impression que ça devient une prison, où il y a une hystérisation des personnages, notamment le gardien de nuit qui tout à coup devient quasiment un personnage aussi important que le protagoniste. Enfin, c'est vraiment des problèmes d'équilibre d'écriture, et devient une sorte de caricature, justement, comme si tout à coup le côté sud-américain devait être réinjecté à dose... comme ça,
oui, parce qu'il y a quelque chose de fantastique pour le coup, réalisme magique potentiellement un peu artificiellement fourré dans le
oui,
film.
Oui, mais francisé. Et du coup, voir un type qui est un pauvre type, qui nous est présenté comme tel, comme un peu sauve-t-il, qui tout à coup devient une sorte de monstre, qui viole les femmes, qui bat les vieux, qui on est dans une sorte d'asile psychiatrique. Voilà, ces moments d'hystérisation sont quand même assez mal négociés. En revanche, face à eux, moi j'ai eu l'impression de voir une sorte d'acteur qui se dit quelle stratégie adopter. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir Gael Garcia Bernal réagir par rapport à ça. Peut-être que je projette ce qu'il est en train de penser. Et on se dit, il est du coup dans une stratégie de sous-jeu. D'où l'impression que le personnage est creux. Enfin, il se dit, ce personnage traverse, c'est une coquille vide, c'est un témoin. Il lui arrive des trucs, le pauvre, c'est pas de sa faute si son ami meurt, mais on le prend quasiment pour un assassin, etc. Et donc, ce côté homme sans qualité, moi, je l'ai trouvé plutôt... bien intercepté au vol par Gael Garcia Bernal. Donc je ne lui reprocherai pas d'être un acteur qui a un personnage creux, d'autant qu'il sort quasiment du film sur Neruda du chilien Pablo Larraín, où il avait aussi cette espèce de côté à la fois d'enquêteur, mais très improbable, un peu bande dessinée, un peu roman, et où il était une sorte de plaque sensible sur laquelle s'impriment les choses. Donc il a cette qualité-là.
Oui, alors pour parler des acteurs, le veilleur de nuit dont vous parliez, c'est Karim Leclou qui l'interprète. Pour moi, c'est vraiment une révélation, pour le coup. C'est vrai que le personnage arrive un peu de nulle part et prend une importance à un moment donné qu'on enfle un peu sans raison scénaristique. Mais pour le coup, je trouve que l'acteur est vraiment très convaincant, Julien Gester.
Bah, je rejoins sur le fait que c'est un superbe acteur. Après, pour vous, c'est une révélation. Je vous encourage à voir les films qu'il a fait avant.
Alors justement, ouais. Je connais pas bien ça, ce film.
Mais on l'avait moins vu dernièrement. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de second rôle pendant plusieurs années, qui avait eu, alors le titre m'échappe, il y a un film qui était sorti il y a environ un an et demi, où il avait un de ses premiers rôles, qui était un champ de mine absolu, puisqu'il avait plein de choses que vraiment il faut pas, qui ne rendent pas, à jouer, qui ne rendent pas service à un acteur. Et il était vraiment vraiment superbe. Enfin, il me semble, je me demande s'il n'avait pas eu une nomination de meilleur espoir au César. Et c'était absolument mérité. C'est vraiment un acteur que j'aimerais voir plus dans le cinéma français, mais peut-être avec quelque chose de peut-être plus intéressant et moins caricatural à jouer qu'ici, parce que là où je rejoins sans rejoindre Charlotte, c'est que ça peut être très beau au cinéma, ces figures d'hommes creux, de personnages principaux qui circulent au milieu d'une ronde d'autres personnages, en étant là pour justement se remplir au fond des couleurs, des teintes, des facettes de ceux qui l'entourent. Mais ici, tout le monde n'a qu'un bloc d'une nuance de sa couleur à jouer, du début à la fin, que ce soit, enfin, d'ailleurs, les différentes, pour le coup, nuances de tortionnaires qui l'environnent, que ce soit le propriétaire de l'hôtel, le gardien de nuit, les différentes figures de déchéance physique ou mentale qui occupent cet endroit. Et on a le sentiment que dès qu'on les a vus dans un plan, on peut écrire les 4 ou 5 suivants qui vont survenir, et ce qui est leur passé, leur futur, enfin, ce qui est peut-être ça peut être une qualité de cinéma de savoir faire exister un personnage en un plan, mais là pour le coup c'est miné pour le coup tout ce qui se joue dans les autres. Et c'est vrai que ne pouvant se raccrocher ni à la chair de ce personnage principal qui n'en a pas, ni à ce qui viendrait le remplir par les autres qui ne sont là que pour être joués des formes de gargouilles un peu prélevées à différents endroits du cinéma américain, espagnol, enfin, on va pas si forcément citer de nom parce que ça pourrait être un peu écrasant, ça pourrait être un peu injuste presque au regard d'un premier film français de voilà. Mais j'ai le sentiment que on a pris un scénario, on a réfléchi au meilleur moyen de le photographier plus que de le filmer, avec ou dans lequel ce serait additionné tout un tas de références très prestigieuses et etc., et qu'on aurait enlevé des morceaux de manière totalement aléatoire. Or, dans toute forme de gruyère de cinéma, il faut que les trous soient aussi brillants que ce qui reste, en fait. Et ici, il y a malheureusement, en fait, on a le sentiment qu'il reste des choses un peu branlantes qui auraient été disposées là, sans que ça converge vers un endroit précis.
Oui, moi, peut-être le côté raté, ça me console du côté extrêmement scolaire des premiers films français qu'on voit. On parle souvent de films type Fémis, qui est cette école d'où sortent un certain nombre de réalisateurs. Moi, je trouve que là, on se situe un petit peu ailleurs. C'est peut-être ça qui me plaît. Muriel Joudet, un dernier mot.
Oui, c'est ce qui rend le film, j'insiste, sympathique dans son ratage. C'est ce pas de côté par rapport au... Souvent, le ratage, c'est un peu tout le temps les mêmes ratages. Les premiers films français, on peut les placer dans des catégories. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inédit. Mais ça donne envie de voir ce qui va suivre. Et en même temps, pour revenir sur les personnages, oui, Marine Walsh, c'est une actrice que j'ai envie de Je comprends que les cinéastes aient envie de faire tourner cette actrice, mais à un moment, il faut. Voilà, ce n'est pas qu'une jolie fille. Enfin, j'espère qu'elle sait jouer, parce que là, ça devient plus possible. Il y a vraiment ce côté, pour moi, vraiment qui est à l'image du film. Image de papier glacé qui se justifie par sa seule présence et à qui on ne va pas conférer. On doit deviner vaguement son passé tragique. Alors que non, il faut que les choses pèsent un peu avant de se lancer dans le mystère.
Allez vous faire votre propre idée sur Si tu voyais son cœur, qui est donc un film de Johan Chemla et qui est sorti le 10 janvier dernier. C'est bientôt l'heure de conclure cette dispute, mais non sans avoir joué. Grégoire Di Fiore, vous êtes là et vous nous rappelez d'abord la question d'hier et la réponse.
Par quel ingénieur français la poste centrale de Saïgon a été conçue? Et la réponse était Gustave Eiffel.
A gagné ce soir des invitations pour l'exposition Surveillance Index Performing Books. C'est jusqu'au 27 janvier au BAL à Paris.
Quel groupe d'activistes américains dénonçait dans les années 90 la société de surveillance en jouant des scénettes devant des caméras installées dans l'espace public?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de lundi, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Lundi donc, vous retrouverez Arnaud Laporte de retour des îles pour une dispute consacrée au théâtre. Il sera entouré de Corinne Rondeau, Anna Sigalevitch et René Solis. Au sommaire, 1993 d'Aurélien Bélanger, mise en scène Julien Gosselin au théâtre de Gennevilliers, From the Ground to the Cloud, texte et mise en scène Olivier Coulon-Jablonka au théâtre de la Commune, et Toute ma vie j'ai fait des choses que je ne savais pas faire de Rémi Devos, mise en scène Christophe Rock au théâtre du Rond-Point.